vous suit.
Voici les titres du journal.
Parmi les économies d'énergie possibles par les communes figure l'éclairage public. Mais éteindre les lampadaires n'est techniquement pas aisé. En ce jour de Toussaint, rencontre avec Simonet Prévitet. Ce maçon géroux de 26 ans est chanoine à l'abbaye de Saint-Maurice depuis 5 ans. La protection civile vaudoise a entrepris un vaste chantier de rénovation-modernisation de ses postes de commandement régionaux. Et en basket, le parcours de Blonay en Coupe de Suisse féminine a pris fin dimanche en 8e de finale. La formation de Ligue B peut ainsi se concentrer sur le championnat. Elle a entamé pied au plancher.
Du soleil pour cet après-midi, du soleil également pour demain. La météo complète, c'est à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Thierry Nicolet. Bonjour Thierry.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Une coupure d'eau est prévue dans plusieurs quartiers des Hauts-de-Montais demain de 13 à 16 heures. Sont concernés les habitants de Sépé, Solais, Chezeau, La Loë, Miaubesset, Légiette, Planche, Braune et Fratier. À l'origine de cette coupure, des travaux sur les réseaux communaux.
Avec les économies d'énergie se pose la question de l'éclairage public.
Sauf que l'extinction ou la diminution de l'intensité de la lumière ne représente pas une manœuvre technique facile. L'aspect sécuritaire entre aussi dans les considérations des acteurs, tout ceci pour économiser de l'énergie selon les volontés du plan Austral, ce programme de la Confédération visant à assurer la sécurité de l'approvisionnement en électricité. Les explications de Valérie Blom.
En Valais, la Fédération des communes a émis toute une liste de recommandations afin d'économiser le courant. Ça passe par les monuments patrimoniaux qui ne sont ainsi plus éclairés et les températures des bâtiments communaux qui sont réduites. Chaque commune pourra en outre décider de mettre en place ses décorations de Noël, de les réduire ou même de les supprimer. Enfin, l'éclairage public fait également partie des mesures visées, mais un lampadaire ne s'éteint pas aussi facilement qu'une lampe de chevet. Les candélabres sont interconnectés par secteurs qui comprennent généralement plusieurs axes routiers, par exemple une route cantonale et deux rues communales. Et si les recommandations de la Fédération des communes valaisannes visent à couper l'éclairage public de 23h à 5h, cela ne peut pas se faire sur les routes cantonales ou les passages piétons pour des raisons évidentes de sécurité. Il s'agit dès lors d'évaluer par ville et par village ce qui est possible. Écoutez à ce propos Alain Neuwert, responsable du département commerce et marketing pour le fournisseur d'électricité Genedis.
Le but, c'est de faire preuve de pragmatisme et de voir aussi à travers des analyses des risques, de peut-être une partie de la route cantonale ou bien un passage piéton qui ne serait pas éclairé, de mettre en place certaines mesures compensatoires pour pouvoir le faire, pour éviter de devoir faire un câblage complètement différent, devoir éteindre manuellement tous les lampadaires à 23h et les rallumer à 5h, ce qui serait bien sûr pas possible. Donc c'est le pragmatisme qui prévaut en la matière.
L'extinction de certains lampadaires ne dépend dès lors pas du fournisseur d'électricité, mais du système de branchement du réverbère. À Aigle, par exemple, chaque secteur correspond à une armoire et la commune en possède 56, ce qui ne facilite pas la tâche. Grégory Deveau, syndic Aiglon.
C'est bien sûr possible d'éteindre l'éclairage public. Par contre, c'est pas aussi facile que ça. En réalité, trois variantes s'offrent à nous. Soit nous intervenons directement dans les armoires électriques pour éteindre, ou plutôt ne pas faire allumer toute une ligne d'éclairage sur une rue complète, soit nous posons une minuterie qui permettra en fait de éteindre l'éclairage de 22h à 5h le matin. Ou alors on laisse, comme aujourd'hui dans certains secteurs, directement l'abaissement nocturne de 75 à 25% d'éclairage. Et tout cela bien sûr en attendant la télégestion qui permettra de faire toutes ces opérations à distance.
D'autres communes préfèrent se concentrer sur des mesures d'économie d'énergie différentes. Vevey par exemple réduit la température de ses bâtisses ou de ses piscines et les lumières de Noël seront vues à la baisse, voire éteintes la nuit. Montet va aussi restreindre le nombre de décorations de fin d'année de près de 70% et abaisse les degrés au sein de ses immeubles et salles sportives. Des économies d'énergie plus faciles que celles faites en réduisant l'éclairage public, on retrouve Alain Neuwert.
Si on prend sur l'ensemble de notre zone de desserte pour les communes qu'on dessert, ça représente 16% de l'ensemble de la consommation électrique des administrations communale. Et si on prend au niveau total de toute la population des mêmes communes, mais en intégrant les ménages, les industries et les communes et l'éclairage public ne représente que 0,6%. Donc il faut un petit peu mettre ça en relation par rapport au coût que ça engendrerait de faire des modifications de câblage importantes pour éteindre entre 23h et 5h les lampadaires.
Et on le rappelle, pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible d'éteindre l'entier du réseau. Route cantonale, zone de rencontre ou passage piéton devraient rester éclairés cet hiver. Sauf en cas de délestage, ultime phase du plan Austral qui prévoit dans ce cas des coupures entières de certains secteurs.
C'était un dossier de Valérie Blom. Des coups de feu ont été tirés cette nuit dans une discothèque de Sion aux alentours de 3h30 du matin. Une personne a été légèrement blessée et conduite à l'hôpital. Un important dispositif policier a immédiatement été mis en place. Les investigations sont en cours pour retrouver le ou les auteurs.
Il a 26 ans et depuis 5 ans, il consacre sa vie à Dieu.
Le maçon Gérou Simonet Prévitet est chanoine à Saint-Maurice. En ce jour de la Toussaint, focus sur ce parcours de vie atypique. Sa réflexion de vouer sa vie au Seigneur débute en 2015 à l'occasion du 1500e anniversaire de l'abbaye. Simonet Prévitet acte sa décision quelques années plus tard en rencontrant des séminaristes lors de ses études en théologie à l'université de Fribourg. Depuis, il se lève tous les matins aux aurores pour prier. Ce fut le cas aujourd'hui pour la Toussaint. Le jeune chanoine détaille la nature de cette fête religieuse.
On célèbre la sainteté en soi, parce que lorsqu'on célèbre un saint ponctuellement comme ça, il porte avec lui la contingence de son expérience, son contexte historique, culturel, etc. Et quand on célèbre la Toussaint, en fait, on célèbre la, d'une certaine manière la quintessence de la sainteté. Et justement, l'évangile qui est choisi pour ce jour-là, à savoir l'évangile des Béatitudes, où Jésus monte sur la montagne et dit à ses disciples « Heureux les doux, heureux les cœurs purs, heureux, etc. » Le pape François dit que cet évangile, c'est la carte d'identité du chrétien. Donc c'est ce qui fait la quintessence du chrétien, c'est ce qui fait l'essentiel de la vie chrétienne.
En devenant chanoine, celui qui sera ordonné prêtre l'été prochain a dû renoncer à une vie dite ordinaire. Et s'il se dit s'épanouir dans son quotidien ecclésiastique, Simonet Prévitet reconnaît qu'il a traversé des périodes de doute.
C'est un paradoxe parce que en soi, on ne renonce pas au terme de renoncement justement. On fait des renoncements, c'est clair, mais avec eux, par eux, j'apprends à me concentrer sur l'essentiel. Et c'est pour ça que finalement tu t'épanouis là-dedans. Alors des fois c'est sûr qu'il y a des moments de doute, tu as effectivement l'impression que tu n'as plus la maîtrise de toi ou que tu aimerais pouvoir gérer ton argent sans qu'il y ait un regard. Mais effectivement, ça te rappelle finalement toujours à l'exigence de l'évangile. Et moi, la grande expérience que j'ai dans les phases de doute que j'ai pu avoir, c'est qu'à chaque fois je suis ramené à une question de foi. Donc c'est toujours à l'essentiel que ça me ramène, c'est-à-dire si tu l'expérimentes comme il faut, c'est-à-dire basé sur l'évangile, tu sais que ça en vaut la peine.
Des propos recueillis par Justin Gray, son utilisation des réseaux sociaux, la place de la femme dans l'église ou encore l'extrémisme religieux, Simonet Prévitet parle de sa vision de la religion dans un entretien à retrouver en intégralité sur notre site internet.
Remettre les postes de commandement régionaux au goût du jour.
C'est le vaste chantier auquel s'est attelée la protection civile vaudoise. Hier, la presse a pu visiter le poste de la Riviera récemment rénové et modernisé, notamment en termes de télématique. Il faut dire que la situation géopolitique internationale a montré que la vigilance est de mise, en termes par exemple de dangers nucléaires, qu'ils soient civils ou militaires. Du coup, quand on fait l'état des lieux des infrastructures PC du canton de Vaud, doit-on se dire que beaucoup a été fait et que beaucoup reste à faire? Yves Terrani l'a demandé à Louis-Henri de la Raja, le commandant de la protection civile vaudoise.
Non, on voit des infrastructures qui sont là, qui sont existantes, qui sont entretenues. On a un parc dans le canton de Vaud de 26 000 ouvrages de protection. Environ 25 000 de ces ouvrages sont des abris privés. Et puis ensuite, on a environ 300 abris publics communaux. Et puis le reste, c'est des constructions de protection civile. La plupart de ces ouvrages sont en bon état, sont contrôlés régulièrement. On a différentes catégories d'ouvrages, donc on n'attend pas le même standard de qualité d'un abri public que d'une construction de protection civile qui est utilisée aussi en temps normal.
Quand la guerre en Ukraine est arrivée, on s'est dit « oulala, il faut qu'on accélère ».
Absolument pas. Il n'a jamais été question de mettre le turbo à cause de la guerre en Ukraine, mais simplement cette guerre en Ukraine nous a ramené peut-être de manière un peu frontale une certaine réalité et nous a montré en fait que ces ouvrages qui pendant 40 ans ont été les mal-aimés parce qu'ils coûtaient de l'argent, eh bien en fait ils ont une utilité et on doit les entretenir, ils sont entretenus chez nous et on doit continuer de les développer.
S'agissant du canton de Vaud, on le sait, c'est un chantier de longue haleine.
Alors absolument, si on prend la problématique des postes de commandement régionaux, ça fait une dizaine d'années qu'on a commencé à les refaire avec un premier pilote qui a été fait à Morges et puis maintenant on a trois ouvrages qui sont complètement équipés avec les standards qu'on vous a présentés aujourd'hui et on a encore un certain nombre de chantiers à venir l'année prochaine, la suivante. Tous ces ouvrages sont entretenus, donc toutes les quelques années ils font l'objet de remise à niveau et puis de différents travaux d'entretien.
Notons que parmi les chantiers en cours figure celui du poste de commandement régional de la région de Baie, qui devrait être achevé au printemps prochain. Quant aux travaux effectués au poste de la Riviera, ils ont coûté 1,8 million de francs. La Confédération a pris la moitié de ce montant à sa charge. Dans la foulée des pertes records de la Banque nationale suisse, le climat de consommation et économique n'est pas vraiment bon. Plusieurs indices publiés ce 1er novembre l'illustrent. Les Suisses se font beaucoup de soucis à propos de leur situation financière personnelle. L'indice est à un niveau historiquement bas. Le détail avec notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Produit par le secrétariat d'État à l'économie, le SECO, l'indice du climat de consommation à fin octobre est carrément à son niveau le plus bas depuis qu'il existe, depuis 50 ans. Les Suisses voient les prix grimper et se montrent pessimistes en ce qui concerne leur propre situation financière. Les sondeurs ont demandé aux consommateurs s'ils sont disposés à effectuer l'une ou l'autre grande acquisition. C'est un non sec, comparable à celui du début de la pandémie, début 2020. Une lueur dans ce tableau sombre, les Suisses restent très optimistes en ce qui concerne le marché du travail. On ne manquera pas de voir un certain paradoxe entre optimisme pour l'emploi et pessimisme concernant les moyens financiers. Autre indice publié ce matin, l'indice PMI des directeurs d'achat pour l'industrie et les services, un indice qui fait référence. Il est en recul, mais à un bon niveau. À 54,9 points, il est toujours dans la zone de croissance, définie au-dessus de 50 points. Les perspectives indiquent toutefois un ralentissement des commandes. L'étude montre aussi que les entreprises se préparent à des solutions alternatives à la consommation effrénée d'électricité et de gaz. La moitié des entreprises a pris des mesures pour contrer une éventuelle pénurie cet hiver. Concernant l'électricité, 45% des entreprises sondées veulent réduire leur consommation, 18% s'équiper de générateurs et de batteries et 12% vont investir dans des panneaux solaires.
C'était notre correspondant parlementaire Serge Jubin. À l'étranger, le Liban, en pleine déroute économique et financière, se retrouve aujourd'hui sans président. Le mandat de Michel Aoun s'est achevé sans que le Parlement, profondément divisé, n'élise un nouveau chef de l'État. Le pays est désormais dirigé par un gouvernement démissionnaire au pouvoir réduit, qui ne peut pas prendre de décisions importantes ou appliquer les réformes exigées par la communauté internationale pour obtenir une aide économique.
Deux opérations de sauvetage étaient en cours ce matin en Grèce pour retrouver des dizaines de migrants.
Plusieurs embarcations ont fait naufrage cette nuit dans une mer agitée. La Grèce a connu cette année une augmentation du nombre d'arrivées de migrants et réfugiés. La majorité appareille des côtes turques proches en tentant de fuir guerre et pauvreté à destination de l'Europe. On ouvre notre page sport avec de l'athlétisme. Mujinga et Ditaji Kambudji changent d'entraîneur. Les deux sœurs bernoises ont décidé de ne plus collaborer avec le coach national du relais, Adrian Rottenbüller. À l'heure de préparer la saison 2023, le team Kambudji a choisi de travailler avec l'ancien sprinter valaisan Florian Kliva.
En basket, la Coupe de Suisse n'est plus une préoccupation pour les joueuses de Blonay.
Opposée dimanche à Elfyn Fribourg, tenant du titre, la formation de Ligue B féminine s'est logiquement inclinée 88 à 42. Très vite distancée au tableau d'affichage, les Vaudoises ont tout de même réussi à inscrire plus de points que leur adversaire durant la dernière période. De quoi terminer sur une bonne note et engranger de la confiance pour la suite du championnat. Après 4 journées, les Blonaisannes comptent 4 victoires à leur actif. Elles sont ainsi en tête du groupe Ouest. Et l'objectif sera de conserver cette place jusqu'à la fin du tour préliminaire en décembre. Les précisions de la capitaine de Blonay, Sarah Cavin.
Je pense qu'on a clairement la qualité pour arriver dans les deux premières équipes. Donc on a vraiment cet objectif-là. On n'est pas très satisfaite de la formule de championnat. On ne se réjouit pas d'aller dès mi-décembre jouer. Certainement qu'on va se retrouver dans un groupe où il n'y aura que des filles de l'Est de la Suisse, dont deux équipes qui ont deux étrangères également. Donc voilà, on n'est pas hyper satisfaite de comment ça va se passer, mais on n'a pas trop le choix. Donc on garde nos objectifs à nous, gagner des matchs, finir dans les deux premières, et puis après on prendra les matchs les uns après les autres.
Dans un mois et demi, les meilleures équipes des groupes Est et Ouest de Ligue B féminine seront réunies au sein d'une même poule. Une décision qui ne ravit personne. Entre les plus longs déplacements et les difficultés à planifier la saison, les contraintes sont multiples. Les joueuses de Blonay qui espèrent atteindre le Final Four en fin de championnat ont ainsi du mal à se projeter. Leur coach Sophie Charlier revient sur ce point.
Je pense que malheureusement, à un moment donné, on va faire face à une incohérence potentiellement d'être au Final Four avec des deux équipes qui auraient dû faire le championnat Liga. Donc après, ça ne veut pas dire qu'on ne jouerait pas crânement notre chance si on doit jouer contre elle. Mais c'est vrai que c'est compliqué de construire une saison. En plus, on n'a aucune perspective, des dates de match. Enfin, je veux dire, nous, il y a toutes les décisions qui appartiennent à la Ligue. Et puis après, il y a toute la réalité que nous, on vit sur le terrain. Et parfois, on a l'impression de vivre dans deux mondes différents. Donc c'est pour ça que je dis à mon équipe, nous, ce qu'on veut, c'est être meilleur match après match. Alors c'est un peu dommage, c'est un peu usant, parce que c'est vrai que du coup la motivation elle est un peu différente et on doit à chaque fois y travailler en disant on se rappelle notre objectif à nous, alors que tout objectif d'équipe devrait être de gagner le titre, puis là on sait qu'on ne peut pas partir comme ça. Donc c'est le travail du coach, d'arriver à adapter son potentiel d'équipe sur la longueur du championnat avec ces réalités-là.
Des propos recueillis par Julien Traxel. À noter que dans ce championnat de Ligue B féminine, Blonay côtoie notamment les joueuses de Martigny. En football, Timothy Fayulu ne rejouera pas en 2022. Le gardien du FC Winterthur, prêté par le FC Sion, s'est blessé à la cuisse dimanche lors du succès 1-0 de son équipe contre Saint-Gall. Il manquera ainsi les deux derniers matchs prévus avant la trêve de la Coupe du Monde. Et en tennis, Stéphanie Feuglet range sa raquette. À 32 ans, l'Argovienne a décidé de prendre sa retraite sportive. Au plus fort de sa carrière, la Suissesse a atteint la 42e place mondiale. C'était en novembre 2013. Elle a aussi disputé deux finales sur le circuit WTA à Acapulco en 2018 et à Newport Beach en 2020. Stéphanie Feuglet entend garder un pied dans le tennis tout en profitant de fonder une famille.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.